Libre à Dieu. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps.
Nous voilà pour la troisième partie de cette émission depuis la salle du pneu qui se situe au Vélodrome, le Vélodrome qui accueille la manivelle, enfin là, dans la salle du pneu, la manivelle qui est la bibliothèque des objets, donc on l'a dit tout à l'heure et on en parlera. La manivelle, c'est l'idée de la mutualisation opérationnelle des objets que l'on n'acquérerait plus, des objets que l'on utiliserait rarement et que du coup justement, nous ne ferions plus vivre comme ça ensuite dans la poussière de nos appartements. Et donc on salue évidemment l'idée, le concept de la manivelle. Viva, bienvenue, bonjour à toi.
Merci, bonjour.
Alors, on est ravis de te recevoir. Tu as effectivement beaucoup, beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui, nous allons parler, a priori, plus de Batida, de l'ensemble Batida.
Tout à fait.
Il y aurait énormément de choses à dire. On va en dire quelques-unes, en tout cas. On pourrait dire déjà que c'est un quintet.
Oui. Alors, quintet, ça, c'est une classique, mais oui, un groupe.
Oui, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi j'ai dit quintet? En fait, moi, je le raisonnais plus en termes de jazz, parce qu'on peut dire que vous faites de la transversalité musicale une des singularités, une des particularités de Batida.
Effectivement, c'est quelque chose qui nous constitue.
Ouais. Alors, il y a parmi vous des percussionnistes, mais pas que. Voudrais-tu nous en dire plus? Alors peut-être en commençant par toi, et peut-être qu'on énoncerait les autres membres de l'ensemble.
Avec grand plaisir.
Allez.
Oui, donc moi je suis pianiste de formation, et depuis que je travaille avec Batida, ça fait bientôt 10 ans, on a pas mal, enfin moi dans ma pratique et puis les autres aussi, on a pas mal ouvert sur l'expérimentation et sur le travail avec d'autres instruments. Moi, je me suis mise au clavier aussi, de la basse électrique pour faire des drones, des pédales d'effet, la voix, plein de choses. J'ai un autre collègue claviériste, c'est Raphaël Kraika, qui vient de la Chaux-de-Fonds et qui a des machines. Par exemple, il a un Roli, c'est une espèce c'est un clavier qui est connecté à l'ordinateur, et puis en fait on dirait presque que c'est comme un clavicorde, c'est-à-dire qu'avec la pression de la touche, une espèce de caoutchouc. Donc j'en étais à parler d'un instrument de Raphaël, qui est donc un clavier avec une matière caoutchouteuse, on dirait c'est une sorte de silicone, c'est assez dégueu. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'avec la pression de la touche, tu peux faire des vibratos comme sur un clavicorde. Tu peux, en montant ou en descendant, varier l'intensité, la hauteur, le timbre du son. Et du coup, c'est une espèce de machine de l'espace, il fait des trucs géniaux avec ça. Et il y a 3 percussionnistes, donc il y a Alexandra Bellon qui fait beaucoup de batterie, qui est dans la musique expérimentale, qui fait beaucoup d'improvisation aussi, qui fait énormément de dessins, qui est dans les arts visuels et graphiques, qui est une bombe d'énergie et d'idées. Il y a Jeanne Larouturou qui est notre petite dernière du groupe, notre plus jeune, qui fait beaucoup de théâtre musical et qui, toutes les 3 percussionnistes ont fait des études classiques, donc elles ont touché à tous les claviers, tous les types de percussions. Et Jeanne a fait aussi un master en théâtre musical à Bâle, en musique contemporaine. Et il y a encore Anne Briset, donc qui est notre 3e percussionniste et qui est aussi multitalent. Elle fait de la contrebasse, elle travaille souvent en pluridisciplinaire aussi avec des circassiens ou avec dans de l'opéra, des choses comme ça. Donc voilà, on a ces 3 percussionnistes qui complètent le groupe. Et je tiens à dire qu'en fait, on est 5 musiciens, mais on a aussi une autre valeur sûre et très importante du groupe. C'est notre ingénieur du son avec qui on travaille régulièrement depuis plusieurs années, qui est David Poissonnier, et sans qui certains de nos délires fous seraient irréalisables.
Mais alors justement, en concernant l'ingé son, parce que ça c'est de toute façon un sujet sur lequel on est obligé de venir quand on parle de Batida, est-ce que c'est un challenge ou est-ce que c'est un enfer selon toi pour un ingé son, l'ensemble Batida, avec justement les particularités qui vous caractérisent, et ces challenges, pourrait-on dire, pour le moins exploratoires, voire expérimentaux?
Bon, faudrait qu'on lui pose la question à lui, mais oui. De ce que j'en sais, il souffre, mais en souriant.
Donc, c'est quand même une forme de challenge. Enfin, j'imagine
ouais,
que pour lui.
Oui. Et ben, en l'occurrence, on a fait notre premier CD avec lui, qui donc il avait déjà naturellement enregistré beaucoup de musique. Il a, voilà, c'est une des pointures de l'IRCAM Paris. Là, il est à la Haute École de Musique à Genève. Donc, il fait beaucoup de projets de, voilà, électro-acoustique et de musique mixte. Je pense que ce qui a, par exemple, éveillé sa curiosité, c'est le fait qu'on travaille sur des supports sur lesquels il n'avait jamais travaillé. On a sorti des flexi-disques et puis un double vinyle collector. Il n'avait jamais travaillé sur un format comme ça. Donc, tout à coup, il enrichit aussi sa pratique d'ingénieur du son et il est aussi force de proposition pour des idées techniques sur des projets. Là, on va entamer une collaboration, par exemple, l'année prochaine avec la metteur en scène Michel Pralong, où on va traiter la voix comme un instrument. Donc, on sera 5 musiciens sans instrument, où on va vraiment travailler sur la voix. Et David va devoir créer des interfaces et travailler avec nous sur comment traiter ses voix. Et voilà, c'est vrai que il nous suit dans beaucoup de folies. On a fait un autre projet qui s'appelait Welcome to the Castle, où on s'était prévu donc pour un château. C'était une espèce de voyage onirique avec un setup mouvant qui allait dans plusieurs des salles du château. Il fallait faire une installation de son avec des haut-parleurs partout, avec des kilomètres de câbles dans le château. Enfin, voilà, il nous suit sur tout et de temps en temps il râle un peu mais je crois qu'il aime bien.
Il faut quand même dire que sur la page Facebook de l'ensemble Batida, on trouve des photos de ce que tu viens de dire, parce que c'est extrêmement impressionnant de vous voir dans la cour d'un château, de vous voir ensuite en voyage, parce que vous êtes quand même beaucoup sur la route. Comment est-ce que vous arrivez à être tous ensemble en voyage comme ça et à monter ces projets sur la longueur, parce que ce sont des travaux de longue haleine? Vous êtes quand même 5-6 personnes et il faut, j'imagine, jongler avec les agendas de toutes et tous.
Oui, alors bon, c'est vrai qu'au début, quand on avait commencé, qu'on était encore étudiant, on avait une forme de stabilité avec des répétitions par semaine. Et puis au fur et à mesure, ça s'est forcément transformé. On est plutôt passé dans un mode de travail plutôt lié au théâtre, où on fait des séances, des résidences de travail. Et puis, on arrive à un niveau où, professionnel, disons, où on fonctionne comme les autres groupes, c'est-à-dire qu'on a nos agendas une année et demie, presque 2 ans en avance, parce que on sait que dans 2 ans, on sera libre et que dans 2 mois, c'est impossible.
Juste, qu'est-ce que c'est qu'un flexi-disque? Tu as dit ce mot tout à l'heure. Sont ces disques souples de propagande, de publicitaire des années peut-être 80 ou 70?
Exactement, même, oui.
Donc c'est du vinyle, mais très fin, c'est ça?
Souple. Oui, souple, exactement. Et c'est un objet périssable qui, au bout d'une dizaine d'écoutes, commence à pécloter et à la fin, on peut plus avoir le support sonore accessible. Donc c'était une idée d'Alexandra et Aude Barrio, avec qui on a collaboré du collectif Hécatombe. Et voilà, ils ont eu cette idée folle de faire ça et c'est génial. C'est des super beaux objets, on est très contents.
Tout de suite, on va donner peut-être le site internet de Batida.
Oui, alors c'est ensemble-batida.com.
Ouais, excellent. Voilà. Ouais, puis parce qu'il y a des photos, il y a des trucs, enfin, c'est vraiment sympa. Comment s'est produit la rencontre de ces 5-6 personnes? Dois-je dire 6 ou 5? Au départ, l'ensemble, c'est les 5 personnes de départ.
Alors en fait, on n'aime pas trop dire qu'il y en avait 3 ou 4 ou 5 ou 6. Ouais. Disons que on s'est rencontrés dans le cadre de nos études à la Haute École de Genève, où on est tous passés pour la musique classique et contemporaine. Et c'est assez particulier, c'était une sorte de coup de foudre dans le sens où on se connaissait pas les uns les autres musicalement. Et on montait une pièce de Luciano Berio qui s'appelle Linea, et à la première répétition on s'est juste dit ok, il y a un truc, on avait du plaisir à jouer ensemble, on arrivait à communiquer non verbalement aussi, à se compléter au niveau des idées musicales, des énergies, et puis en fait ça s'est fait très naturellement, de fil en aiguille, on a fait de plus en plus de projets, et puis là c'est au sortir des études que finalement on a collaboré avec David, parce que lui il était dans le cadre de la Haute École et ça s'est imposé comme une évidence parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui avait ses capacités techniques et relationnelles aussi au niveau humain, c'est un ami maintenant.
D'accord. Les lieux sont également très importants, j'ai l'impression, dans l'ensemble Batida. Vous êtes toujours à la recherche d'espaces particuliers. Est-ce à dire que les lieux ont une vibration, que vous recherchez des caractéristiques particulières, que vous recherchez des nouveaux espaces à défricher?
Alors, il y a cette volonté-là. C'est vrai qu'on est extrêmement curieux et on aime beaucoup, justement, pas... se balader avec l'étiquette qui au départ était très collante de musicien contemporain, parce que c'est très difficile d'accéder à toutes sortes de milieux à cause de l'étiquette. Et puis simplement parce qu'on est aussi 5 personnalités qui avons des backgrounds musicaux et esthétiques assez différents, et on aime aller à la rencontre d'artistes d'autres disciplines. Et puis en fait, ça s'est pas fait seulement de notre seule volonté, c'est aussi le hasard qui est magnifique, où tout à coup on nous propose des collaborations, ou bien il se trouve qu'on travaille dans tel endroit, puis on découvre, voilà, Genève, c'est... Enfin, moi j'ai grandi là, mais ce que je dis souvent, c'est que c'est une ville où chaque semaine c'est possible de découvrir 3 nouvelles structures, compagnies, lieux, festivals, c'est infini comme endroit. Et bon, je joue pas qu'à Genève, mais disons qu'il y a ce rayonnement-là de départ qui fait qu'ensuite... on fait des rencontres, c'est très international comme ville. On va, par exemple, là, on a collaboré avec un compositeur latino-américain qui s'appelle Arturo Corrales. Et lui, il nous a fait collaborer avec un festival à Saint-Pétersbourg. On a été joué là-bas. Donc voilà, ça se fait comme ça, de fil en aiguille. Là, dernièrement, on est parti à Lisbonne jouer parce que une des membres du collectif Hécatombe a vécu là-bas. Et puis elle nous a permis de rencontrer en fait un des clubs là-bas. Et voilà, c'est un réseau, ça prend du temps, c'est de l'amitié, c'est beaucoup de travail aussi, puis c'est de la curiosité. Mais voilà.
D'accord. Et puis, il y a toujours ces journaux de bord, pourrait-on dire, qui vous accompagnent. Alexandra illustre quasiment systématiquement. Ça, c'est vraiment de son fait comme ça, ou ça fait partie également de l'aventure?
Alors, il se trouve qu'elle a développé vraiment une relation au dessin qui est très, très particulière. C'est pas depuis le départ, ça s'est développé ces dernières années. Et c'est des carnets qu'elle fait, ça l'aide autant à cristalliser des projets, des idées, à mettre en relation. Elle le fait pas que pour Batida, c'est vraiment dans sa pratique. Elle a notamment aussi un duo avec une jeune artiste grecque-hollandaise qui s'appelle Carla Isidorou, avec qui elles font un binôme qui va sur de la performance, qui va sur du dessin. Mais du coup, c'est pas spécifique seulement à Batida, ça provient vraiment de de sa manière de créer.
Alors tu l'as dit, ces dessins, ces esquisses n'habitaient pas l'ensemble Batida dès le début. Elles viennent compléter, accompagner vos voyages actuellement. Et c'est-à-dire que vous êtes effectivement très attentive à un work in progress, à une évolution constante et du fond et de la forme de l'ensemble Batida.
Oui, parce qu'on a aussi, comme je disais, des parcours assez différents. On vit dans des villes différentes. Et puis, on a aussi une contrainte à un moment donné, quand on a quitté les études, le cadre, le cocon, qui a été aussi la haute école nous a beaucoup soutenus en nous mettant des instruments à disposition, des auditoriums pour pouvoir répéter. Et puis maintenant, en fait, le seul espace, disons, fixe où on pourrait travailler de la musique avec des pianos et des percussions, c'est Eclecto, qui est donc le Centre international de percussion.
Ici à Genève.
Ici à Genève. À l'avenue du Mail.
Voilà.
Et c'est vrai qu'à partir du moment où on n'avait plus d'endroit où on pouvait régulièrement répéter sur des instruments comme ça, on a développé des instrumentariums portatifs, plus portatifs en tout cas. Et on est très curieux de lutherie expérimentale, de lutherie électronique aussi. Donc au fur et à mesure des intérêts de chacun, le groupe peut intégrer des nouveaux savoir-faire, des nouvelles curiosités, des nouveaux mondes esthétiques et stylistiques. Et du coup, c'est très enrichissant. Et c'est pour ça que chacun, ça nous tient aussi vraiment à cœur de garder nos activités et nos collaborations artistiques autres que celles de Batida,
voilà.
Parce que ça nourrit notre pratique.
Eh bien, c'est parfait. Je voulais justement t'entendre là-dessus sur qu'est-ce qui nourrissait également et quelles étaient les aspirations, si vous en aviez comme ça, qui étaient formulées ou qui certainement vous habitent, mais sans qu'elles soient énoncées. Mais voilà, alors ce qui nourrit, on peut dire que c'est finalement la vie. C'est cet accident qui fait que ces accidents répétés, des rencontres ici et là, et desquels vous faites trésor.
Oui, et puis bon, on a chacun aussi des fois des lignes intérieures qui sont très fortes et puis qui nous font aller dans, aussi dans des directions. Mais c'est vrai qu'on est, on accueille beaucoup ce qui va arriver de bien au groupe parce qu'on a vraiment la chance d'être entouré de musiciens, de familles, d'amis qui sont merveilleux, qui nous soutiennent et qui nous permettent aussi de pouvoir faire ce qu'on fait, c'est-à-dire monter des projets. On en monte pas mal par année quand même. Mm-hmm. Et puis après, il faut aussi là, toute l'infrastructure derrière pour arriver à les diffuser ou bien voilà, en créer des nouveaux, faire des nouvelles rencontres. C'est vrai que c'est...
Est-ce que lorsque vous voyagez, que ce soit des voyages intérieurs ou géographiques, parce qu'on sait que vous êtes également féru de voyages intérieurs,
oui.
Est-ce que les folklores qui vous entourent vous touchent et vous nourrissent également? Quand je dis folklore, je pense au terme à large spectre, autant folklore urbain, je pense pas qu'au folklore, le mot un peu poussiéreux qui dit voilà, musique folklorique en costume folklorique, non. Je parle effectivement de lieux qui ont des histoires artistiques, qu'elles soient contemporaines ou pas, des cheminements artistiques particuliers, comme effectivement ici, on peut dire que on produit du sens et de l'art au sein du Vélodrome, et il y a des espaces comme ça dans plein de villes, typiquement voilà, des villes comme Lisbonne, comme Barcelone, où on sait que la création est particulièrement effervescente. Alors voilà, y a-t-il tout au long de vos cheminements des folklores de ce type-là qui vous nourrissent?
Alors, j'essaye de réfléchir, d'être sûre de me mettre dans l'optique que tu proposes. Je ne l'aurais peut-être pas effectivement appelé folklore, mais je comprends maintenant dans quel sens tu le penses. On est très poreux en termes artistiques parce que c'est un enrichissement, chacun à notre manière. Donc il y en a plusieurs dans le groupe qui sont notamment beaucoup nourris par la littérature. Donc du coup, ça peut nous faire voyager dans des esthétiques et dans des conceptions du monde ou des manières de poser le regard sur, que ce soit contemplatif, analytique ou sensitifs vraiment, qui sont différentes. On avait fait, je reprends le terme folklorique tel qu'il est souvent pris, mais par exemple, on avait été très, très touchés de la démarche de Béla Bartók, qui a écrit une des pièces pour piano et percussion, qui est la pièce fondatrice de cet ensemble, en fait, qui est cette sonate pour piano et percussion. Et lui, il a fait tout ce travail de mémoire, en fait, ce travail de reconnaissance et de valorisation de ce qui n'était pas institutionnel et de ce qui était dans la vie quotidienne des gens. Et je pense que ça, c'est important parce que nous aussi, on utilise beaucoup d'objets de la vie quotidienne. Alors, je me souviens que les percussionnistes m'avaient raconté cette histoire qui nous a fait beaucoup rire, où à un moment donné, pour un projet de composition, donc on avait créé une pièce et on voulait avoir des percussions plus industrielles. Et on s'était mis en quête de résonants, d'objets qui allaient bien sonner. Et elles étaient parties dans une casse de voiture et elles avaient trouvé des tambours de frein et elles avaient trouvé des jantes de bagnole. Et le gars qui était là à la casse de voiture, mais il hallucinait, il ouvrait des grands yeux, mais vous allez faire de la musique avec ça? Eh ben oui, en fait, parce que c'est pas des matériaux qui sont pas nobles finalement et qui peuvent être détournés. Puis on n'est pas du tout les seuls à faire ça, hein, mais c'est pour dire qu'effectivement on doit s'inspirer du quotidien de qui on a autour et voilà, des histoires personnelles, des peut-être des moments difficiles aussi vont pouvoir inspirer notre création ou nourrir notre interprétation quand c'est pas notre musique qu'on joue. Voilà. Mmh.
Béla Bartók, donc un pianiste hongrois.
Oui.
Dont effectivement on peut dire que parmi les singularités, il y a des morceaux un peu comme ça dissonants qui sont extrêmement intéressants, mais pas que. Hein.
Oui.
Mais il y a parce que je me souviens d'avoir dû apprendre à jouer du Bartók. C'est pas évident. Hein. Donc je salue la performance des pianistes en fait. Concernant Bartók et les autres, évidemment. Du point de vue de Batida, lorsque l'on fait partie de l'ensemble Batida, comment se porte le monde et comment est-ce qu'on l'infléchit si on souhaite l'infléchir, le rendre peut-être un peu plus beau pour certaines personnes de passage?
C'est une jolie question, mais du coup, il me faut 10 secondes pour rassembler mes idées. Surtout pour parler au nom d'un collectif, ce qui n'est pas du tout facile parce que on fonctionne en collectif et pas avec une tête pensante. Donc, je vais essayer de ne pas dire trop d'âneries pour mes collègues.
Elles te démentiront une autre fois.
Voilà, c'est ça. Ce serait bien qu'elles aient aussi un droit de réponse.
Mais certainement, certainement.
Écoute, je pense qu'on aime... C'est peut-être banal, mais je crois qu'on aime la poésie, puis on aime la beauté. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas une démarche qui est là pour... qui n'est pas là pour provoquer ou pour déranger. On essaye de faire rêver avec des sonorités qui, des fois, sont des sonorités qui peuvent déranger, parce que, justement, comme tu disais, ça peut être dissonant, notamment la musique contemporaine. Et on utilise le savoir-faire qu'on a été éduqué pendant beaucoup d'années en tant que musicien classique, mais des fois éduqué de telle manière qu'on s'est aussi un peu oublié dans notre créativité intérieure, dans notre manière de s'émerveiller de ce qu'on a autour de nous. Et puis c'est ça que je trouve qui nous a réunis aussi avec ce groupe, c'est que tout à coup on avait la possibilité de réinjecter tous ces imaginaires, toutes ces sensibilités qu'on avait autour de nous dans la musique qu'on crée et qu'on crée en collectif. Et ça, c'est aussi un modèle finalement social et politique, c'est-à-dire de se dire qu'il n'y a pas un chef, qu'il n'y a pas... Voilà, il faut faire du consensus. Des fois, c'est pas facile.
Bien sûr, ben oui.
Mais et on aime bien aussi quand on travaille avec des, je mets plein de guillemets, externes au groupe, c'est-à-dire avec des amis, des artistes qu'on va rencontrer. On essaye d'avoir une manière de de trouver une nouvelle manière de collaborer, parce qu'avec chaque personnalité, c'est très différent. Et finalement, on doit se poser ces questions-là aussi vis-à-vis des publics, parce qu'il y a autant de publics différents que de personnalités. Et c'est-à-dire se demander comment on peut amener des univers qui sont des fois des univers pas évidents à aborder, et que ça reste ludique et qu'il y ait cette énergie. Parce que finalement, les publics sont très très sensibles maintenant, en plus à une attitude, à une énergie qu'à un style. Et c'est vrai que ça faisait partie des reconnaissances qu'on a eues et qui nous ont beaucoup encouragés. C'était que tout à coup, des personnes de notre entourage qui n'avaient jamais entendu de musique contemporaine sont venues des fois à des concerts. Je pense notamment à un concert qu'on avait fait à la Société de musique contemporaine à Lausanne en 2016, où ils nous ont dit « Oh, mais c'est génial, c'est de la musique contemporaine. Je ne pensais pas que c'était de la musique contemporaine, mais on a trop aimé, vous avez une patate sur scène. » Enfin, et en fait, ça nous porte vraiment loin, parce que tout à coup, on va pas aller au-delà de certains préjugés. Et puis, c'est une manière de partager. J'espère que je blablate. Mais...
Non. Alors moi, je trouve extrêmement intéressant tout ce que tu nous dis là. Donc www.ensemble-batida.com. Voilà, ça c'est le site internet. Nous allons dans quelques instants parler du projet de l'Athénée 4 qui arrive tout soudain. Mais avant cela, encore une dernière question, et puis je voulais m'adresser évidemment aux personnes qui sont autour de nous. Un micro est toujours à disposition, un micro ouvert, donc si des questions surgiraient, eh bien, soyez les bienvenus. J'aurais voulu terminer cette première partie de l'entretien en te posant la question du rapport à l'instrument, parce que là on a jusqu'à présent beaucoup parlé du rapport au monde, du rapport aux personnes, du rapport à autrui. Qu'en est-il du rapport à l'instrument de chaque de toi, par exemple, avec ton clavier, et des rapports des instruments aux instruments. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un work in progress, l'ensemble Batida. Des choses viennent, d'autres partent, j'imagine. Des sons, des objets, des fois insolites, des fois industriels, des fois de nouveaux instruments. Alors, de quelle manière est-ce que l'on met en place cette relation que l'on a à l'instrument lorsque l'on sait qu'on a son instrument et qu'on a envie d'en jouer, mais qu'on a également envie de se dire, tiens, il y a d'autres choses qui pourraient s'agréger, et lesquelles, et à quel moment c'est pertinent ou pas?
Alors, je pense que c'est une question qui s'inscrit dans une durée, dans un temps, parce que maintenant, ça fait effectivement bientôt 10 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est vrai qu'on a une pratique ensemble qui est...
affinitaire, voilà, et bien sûr.
Mais surtout on a eu beaucoup de pratiques ensemble aux instruments. On a beaucoup joué ensemble, on a beaucoup rêvé, improvisé, collaboré. Et tout à coup, on a une sorte de patte sonore de l'ensemble qui est là, qui reste d'un projet à l'autre, même quand tout à coup les setups explosent complètement. Alors comment c'est possible? Je ne sais pas exactement. Je pense que c'est plus une alchimie de penser la musique que forcément que le setup. C'est vrai qu'il y a certains projets où, évidemment, on a dû abandonner complètement les pianos parce qu'ils sont intransportables et puis qu'on ne pourrait jamais accéder à des salles où il n'y a pas de piano. Et puis, c'est triste, donc on ne veut pas ça. Mais tout à coup, oui, il y a... Alors déjà, par exemple, les percussionnistes, c'est vrai qu'il y a cette dimension performative. Il y a cette idée il y a ce geste qui est toujours très fort, qui est toujours très impressionnant aussi, c'est-à-dire qui va marquer le public et qui est pensé. C'est toujours très conscient de leur part parce qu'elles ont, voilà, une très grande expertise là-dedans. Et même quand tout à coup, une va décider d'utiliser, par exemple, une sitar comme instrument de percussion, ça boit de la sitar, ça devient de la percussion, mais ça devient de la percussion harmonique, chantante. Et donc, il y a des espèces de combinaison, c'est-à-dire on va utiliser un savoir-faire par rapport à un instrument et on va pouvoir le transposer à d'autres. Par rapport à des instruments mélodiques, c'est vrai que avec Raphaël, on se connaît bien et on doit aussi se mettre d'accord quand on décide que on veut avoir un certain univers harmonique ou pas. Donc on travaille dessus, on va prendre des fois des choses simples comme base et puis on va construire en allant dans une complexité harmonique de timbres aussi, parce que justement avec nos claviers il y a une banque de timbres absolument infinie, donc il faut passer du temps à chercher. Et souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait une sélection assez petite par rapport à la possibilité de l'instrument, et on décide d'aller à fond dans l'utilisation de cette sélection de sons. Donc on va l'utiliser des fois sur plusieurs projets dans différents contextes. C'est toute une manière de placer des sons dans un contexte, de les placer dans un rôle aussi. Est-ce qu'on a un rôle mélodique? Est-ce qu'on a un rôle harmonique? Est-ce que tout à coup, un de nous va prendre la main? J'ai souvenir justement dans ce club à Lisbonne où on faisait un projet de musique mi-écrite, mi-improvisée sur ces partitions graphiques du collectif Hécatombe. Et tout à coup, on jouait à 1h du matin, le club était blindé, les gens parlaient fort, ça buvait. Enfin, il y avait une animation dans ce club, c'était un truc de ouf. Et tout à coup, en plein milieu, on s'est rien dit. Et là, c'est parti en impro, en vrille, dans un truc un peu techno. Bon, ok, le temps de se mettre les yeux en face des trous, se dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais réagir à ça? Voilà, j'ai un instrument, des fois que je connais pas autant que, par exemple, moi, le piano. Je sais pas, j'ai ma basse pour faire des drones, ou bien j'ai un synthétiseur que... Eh ben, je dois me dire, ok, alors quel son pourrait aller là-dedans? Je vais plutôt faire des bruits, je vais venir du côté de la percussion. Est-ce que je vais créer une ligne de basse? Parce que tout à coup, je sais pas comment. Alors, j'essaye de deviner qu'est-ce qu'il est en train de jouer. J'en essaye un, c'est à côté. Bon, bah, c'est pas grave, je vais un petit peu plus loin. Et puis, finalement, on se trouve. Et ça, c'est chouette parce que, voilà, ça reste spontané aussi et beaucoup d'écoute. On a les oreilles ouvertes. Voilà, ouais, on joue ensemble.
Ouais. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment écouter les autres et puis écouter. Ouais, ok, très bien. Venons-en à ce projet. Donc la soirée l'Athénée 4, où l'ensemble Batida sera en première partie et interprétera une œuvre dont tu vas nous parler maintenant. Est-ce que là également, lorsque c'est quelque chose comme ce type-là de concert, il y a une place également à l'improvisation, à la spontanéité, où là quand même vous restez quand même dans une sorte de cadre quand même assez précis?
Oui, alors bon, un cadre, il est posé, et puis à l'intérieur, en l'occurrence à l'Athénée 4, donc le dimanche prochain, on va faire un de nos concepts qui s'appelle Double Face. Et l'idée de ce concept, c'est de partir d'une œuvre écrite, en fait existante, du répertoire, et de réfléchir, donc de l'interpréter en tant que première partie, par exemple, de ce concert, et en deuxième partie, de faire une création en regard de cette pièce, de créer un double face de cette pièce. Donc on va réfléchir aux spécificités de cette pièce, que ce soit harmonique, rythmique, au niveau des timbres, au niveau de la gestion de la forme, ou bien du temps, ou bien tout à coup de partir sur vraiment quelque chose de micro. Et on va décider d'en garder une de ces idées, ou deux, et puis de la placer dans un contexte complètement autre, dans un style complètement autre, ou au contraire de travailler en clair-obscur, c'est-à-dire d'aller contre une idée. Alors là, il se trouve qu'on va travailler sur Inside de Terry Riley, qui est, je ne sais pas si c'est la première pièce de la musique minimaliste répétitive américaine, en tout cas elle a cette réputation, qui est une pièce qui tient sur une page. Il y a 53 patterns. Alors, des patterns, c'est des petits bouts, en fait, de musique. Et l'idée, c'est que chacun des interprètes, c'est écrit pour ensemble libre, chacun des interprètes passe à travers ces 53 patterns en les répétant autant de fois qu'il veut. Et il y a des sortes de règles du jeu. Donc, on ne doit pas avoir un espacement entre les musiciens, entre celui qui est au pattern 1 et celui qui est au pattern 6. C'est trop écarté. Il n'en faut que 3 ou 4 d'espace. Donc, il faut toujours être attentif à où en sont les autres et être capable de donner des signaux. Et donc, c'est avec une pulsation à la minime, comme ça, très rapide. Et ça évolue très lentement en termes de spectre harmonique. Donc, ça bouge comme ça lentement. Et il y a ce phénomène qui, au fur et à mesure, apparaît. Alors, ça marche ou ça marche pas selon les personnes qui reçoivent cette musique, mais c'est une sorte de phénomène de transe. Comme ça tourne, ouais. Ça...
C'est un peu hypnotique. Ça devient hypnotique. Et, ouais.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, là, on va se poser la question, parce qu'on va composer la pièce à partir de lundi. Donc, ça va être une nouvelle création. Je vais donner un exemple parce que disons qu'il y a eu beaucoup de manières de rendre hommage à une pièce. Donc on pouvait faire un hommage, on pourrait faire à la manière de. Donc là, c'est pas l'idée, c'est pas de faire à la manière de Terry Riley et écrire une autre pièce avec des patterns et qui se répètent. C'est pas non plus forcément. Ça pourrait être une thématique commune. Par exemple, chez Bartok, on avait fait un double face de sa pièce et on s'était dit on pourrait garder une idée de ces thèmes populaires parce qu'il y a un accès aussi assez direct au chant. C'est souvent lié à la voix et ça peut rester gravé. Voilà, ça pourrait être par exemple une des thématiques qu'on pourrait avoir en commun avec une œuvre. Là, c'est plus l'idée qu'on a assimilé l'œuvre, qu'on l'a intégrée. Ça fait beaucoup d'années qu'on la joue. On a une couleur qui est plutôt une couleur très lumineuse dans INSI. Il y a un passage au milieu qui est plus mineur et qui va aller dans quelque chose d'haletant. Mais globalement, c'est assez lumineux. Donc on s'est posé la question, tiens, on pourrait faire en clair-obscur et faire une double face qui serait très sombre, par exemple, qui irait dans un côté plus rock progressif, dark. On ne sait pas encore. Hein.
D'accord.
On sait pas.
Ouais,
ça pourrait être ça. Ça pourrait être de se dire, il y a ces masses harmoniques qui évoluent très lentement. Ben, on pourrait... décider que notre nouvelle pièce soit une conduite de clusters mouvants. Les clusters, donc, c'est des agrégats de notes qui font une espèce d'accord, de pâté sonore, comme ça. Voilà, on réfléchit aux spécificités de la pièce sur laquelle on a travaillé. On va garder un ou plusieurs éléments qui la constituent en essayant de partir vraiment dans un autre style. Et donc, ça concilie aussi un peu les différentes facettes du groupe parce que
oui.
On fait pas... que du répertoire, que du classique, que de l'expérimental. On aime vraiment combiner ça. C'est cette idée de double face.
D'accord. Oui, donc ça veut dire que, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de choses à saisir au dernier moment, au moment où on va se plonger et on sera à même, en tout cas, on sera transporté par ces sons dont tu dis qu'ils pourraient être également hypnotiques par leur... par leur répétition et par leur...
Alors voilà, dans une cité réelle, effectivement, oui.
Vous, j'ai lu que vous parliez également de Stravinsky, des œuvres de Stravinsky également, que vous avez métabolisées, que vous remettez un petit peu...
Oui, c'était la première pièce sur laquelle on a travaillé de cette manière-là, sans que ce soit encore conscient et que ça s'appelle un double face et que ce soit un super concept, trop génial. on a travaillé le Sacre du printemps de Stravinsky. Il a écrit une version pour piano quatre mains qui pouvait être jouée à deux pianos. Et il y a parce que la famille Stravinsky est très très regardante sur les droits et la manière dont on peut utiliser la musique de Stravinsky. Et ils avaient autorisé une interprétation en rajoutant les percussions de l'orchestre, de la partie d'orchestrale. Donc il y a une version pour piano et percussions. Donc on avait travaillé ça. Et puis il se trouve que on avait travaillé avec une compagnie de danse hollandaise. Et la pièce est tellement dense. Danse D-E-N-S-E, pour le coup, intense, voilà, exactement. Ça passe d'une section à l'autre rapidement, les rythmes sont complexes, etc. Qu'en fait, le chorégraphe avait dit wow, est-ce que vous seriez d'accord qu'on déconstruise ce sacre ? Et bon, nous, c'était la première fois qu'on faisait pas du répertoire. Et on s'est dit, ouais, trop génial. Ok, oui, on fait ce que tu veux. On peut essayer ce que tu veux. Puis en fait, comme il a vu qu'on était très ouvert à changer, on a travaillé sur une déconstruction du sacre qui n'était pas officiellement autorisée, mais finalement, on en est arrivé à tellement le déconstruire, tellement le modifier, le transformer, que c'est devenu une pièce complètement autre, voilà, qui a eu un nom autre et qui a eu une esthétique plutôt électro-rock avec des percus industriels, avec du Fender Rhodes, avec de l'électro dessus. Voilà, donc c'est devenu complètement autre chose. Et on l'a donné plusieurs fois en concert en mettant le sac en première partie et cette pièce-là en deuxième partie. Et c'est devenu ce concept double face.
Ok. En tout cas, ça donne vraiment envie de venir. Et c'est ce qu'on voulait faire, c'est de donner envie de venir le dimanche 20 janvier à l'Athénée 4 à Genève. Donc à 18h30, ouverture des portes avec l'expo et performance de Stenepé, hein, de Stéphanie Probst, que l'on va certainement arriver à interviewer soit aujourd'hui, soit une autre fois. Mais on connaît bien, c'est Stenepé.
Son travail, oui.
Voilà, et notamment son travail de Stenepé et pas comme. Puis à 19h, donc l'ensemble Batida pour double face. Et puis ensuite à 20h30, Neology. De Florian Favre. Voudrais-tu nous dire quelques mots ?
Oui, donc c'est un double concert. On a de la double face et du double concert parce que on aime bien aussi justement mélanger les publics et on a eu une rencontre très chouette avec Florian qui est un pianiste fribourgeois qui est basé à Zurich maintenant et qui a un trio qui tourne pas mal et qui est vraiment il joue vraiment très bien. Et on avait fait déjà un concert comme ça, double, l'année passée, pas avec Batida, mais du coup avec eux. Et voilà, on a eu envie de reconduire l'expérience parce que c'était hyper sympa et que les gens qui venaient, par exemple, pour le jazz, donc pour Florian Favre, ont écouté un autre concert et ils étaient ravis. Et dans l'autre sens, c'est pareil, ceux qui sont venus écouter Batida, ils ont, aiment aussi découvrir d'autres artistes. Et donc c'est un projet de jazz, mais pas que, parce que Florian est parti en résidence à la New Orleans et à New York l'année passée. Et il a eu beaucoup d'inspiration musicale là-bas, il a rencontré aussi des musiciens formidables. Et il a décidé qu'il créerait un nouveau projet qui s'appelle donc Neology. Je l'ai entendu expliquer à la radio que c'était Néo avec E accent aigu, donc comme en français, et Logi avec Y à la fin, comme en anglais. C'était vraiment cette idée de fusion aussi culturelle entre son background francophone et suisse et cet appel vers les musiciens américains et cet anglicisme. Et donc c'est un projet de jazz et hip-hop. Donc il a écrit des textes et il va rapper en même temps qu'il joue son piano. Et il a invité deux musiciens américains et un musicien français à rejoindre. Donc ils vont jouer en sextet pour ce nouveau projet qui va tourner un peu partout en Suisse dans les prochaines semaines et qui va être enregistré.
Donc ce sera enregistré à l'Athénée 4 ?
Non, ils ont un autre espace. D'accord. Après, voilà. Okay. L'Athénée 4 fait partie de leur tournée. Ils viennent jouer à Genève seulement pour cette date-là. Puis après, ils jouent à Lausanne, à Zurich, au Moods, à différents endroits. Il faut aller voir sur le site de Florian. C'est www.florianfavre.com.
Très bien, merci pour le... Alors, effectivement, est-ce que l'on pourrait dire qu'un parmi les mots-clés, c'est fusion ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, la soirée en elle-même, pourrait-on dire qu'elle est justement, vous êtes attentive à ce que, déjà l'expo nous produise un effet visuel, qu'ensuite l'ensemble Batida vienne produire un effet sonore et pas que, et nous en terminerons avec effectivement encore un concert qui est effectivement d'un style différent, mais dont on peut dire qu'il y a des choses communes, et notamment cette espèce de dynamisme intérieur, de force intérieure qui peut, alors en l'occurrence pour Neology, finir par donner envie de danser.
Alors on espère, oui. En tout cas, il a proposé qu'on enlève les chaises pour que les gens puissent être debout. Donc on espère que cet enthousiasme va être communicatif. Et justement, c'est l'idée que ce soit pas... On prend au sérieux notre art et notre travail, mais il faut que le côté institutionnel ou dramatique parfois de la musique, aussi dans le jazz, d'ailleurs c'est aussi des fois un milieu qui peut être fermé ou qui va pousser à l'extrême des fois la compétition et le perfectionnisme. Et donc là, l'idée, c'est de faire du bon travail, naturellement, et on est tous très exigeants et perfectionnistes, mais que ce soit dans une ambiance qui soit détendue. Il va y avoir aussi un bar, on va pouvoir manger. Donc l'idée, c'est de faire des rencontres et qu'on puisse échanger aussi avec le public et que les gens se sentent bien en écoutant de la bonne musique.
Très bien, très bien. Bon, en tout cas, nous, on n'en doute pas depuis notre point de vue. Alors, si des questions surgiraient, eh bien, c'est le moment, parce que sinon, on va arriver doucement au terme de cet entretien. On va rappeler, donc, dimanche 20 janvier à l'Athénée 4 à Genève, à 18h30, ouverture des portes, à 19h, c'est l'ensemble Batida pour Double Face, la troisième édition de Double Face. Et puis ensuite, à 20h30, Florian Favre avec le projet Neology. Alors, qu'en est-il de la billetterie ? Est-ce que vous avez... Il y a encore de la place ? Les gens doivent se presser ou ils peuvent encore prendre un petit peu de temps ? Et puis, comment est-ce qu'on peut... je vais le dire là, dis moi. Alors, réservation et information, c'est réservationathénée4, en un mot, @gmail.com. Le numéro, c'est le 078-808-1038. Le site internet, on va le redire, www.ensemble-batida.com et également www.florianfavre.com.
Voilà. Pour l'instant, il y a encore de la place. C'est pas une très grande salle.
Ouais, c'est pour ça. Je me disais que.
Donc, c'est vrai que ça se remplit assez vite. Donc, c'est mieux de réserver si ça vous intéresse. Je précise juste que réservation Athénée 4, c'est au singulier. Parce que peut-être en écoutant, on n'est pas sûr.
Oui, puis on mettra au libellé de l'émission.
Super. Je pense qu'il y aura du monde.
Oui, certainement. Très bien. Vous avez été, quelques médias ont-ils réagi, vous ont-ils sollicité déjà ou...
Alors, on les a contactés, puis en tout cas, oui, on a eu la chance d'avoir Libre Radio, Fréquence Banane, on est très honorés. Et puis, il y a quelques autres médias, qui ont proposé de soutenir ça. On espère avoir peut-être une critique, donc on aimerait bien qu'il y ait... Parce que, c'est ce qui est le plus vivant et le plus honnête, finalement, c'est quand quelqu'un vient écouter et explique son ressenti, son point de vue, son analyse critique, et ça nous apprend aussi beaucoup, et c'est ça qui est enrichissant aussi. Donc on espère qu'on pourra avoir un critique aussi dans la salle.
Eh bien, en tout cas, nous, on est ravis de t'avoir reçu. Merci beaucoup, Viva Sanchez. Tu es donc pianiste dans l'ensemble Batida. Je dis pianiste pour dire quelque chose, mais pas que. Membre, pourrait-on dire. Comment est-ce qu'on dit?
Membre du collectif
membre
Batida.
Membre du collectif Batida. Ouais. Et puis, de quoi qu'il en soit, nous restons en contact pour la suite des opérations.
Merci beaucoup, William.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao, ciao.
Ciao.
Nemesis sur www.libradio.org. Si les murs ont des oreilles, les barricades ont la parole.